exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous. Dans un instant, notre débat sur la pénurie des logements sociaux. La crise concerne de très nombreuses villes à travers le continent africain, des villes confrontées à l'urbanisation accélérée. Nous attendons évidemment vos témoignages, vos commentaires. Mais d'abord, comme promis, nous retrouvons Ozana, qui est à Béboto, dans le sud du Tchad, et Kemal Afanyon, le responsable du bureau de l'Afrique de l'Ouest de l'ONG Internet sans frontières. Vous êtes tous les deux de nouveau avec nous. Kemal Afanyon, vous n'aviez pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de vos explications en répondant à Ozana sur les interdictions, les restrictions, les coupures d'Internet ordonnées par les États. Et on l'a vu ces derniers jours au Sénégal après l'annonce de la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Et vous nous disiez que les opérateurs téléphoniques étaient finalement contraints, obligés de répondre ou en tout cas de suivre les décisions prises par le gouvernement.
Oui, Juan. Donc, en général, ces opérateurs de téléphonie mobile signent donc un cahier de charges auprès de ces gouvernements. Et il faut préciser que ces gouvernements prennent justement ces décisions concernant les coupures du réseau Internet lors de crises politiques ou en période électorale. Donc, cet ordre provient généralement du pouvoir exécutif lui-même ou du régulateur des télécoms qui ordonne donc à ces fournisseurs de services Internet de limiter l'accès du réseau à leurs abonnés. En général, pour fournir donc leurs services, ces entreprises de télécommunications obtiennent des licences qui sont octroyées donc par les autorités des pays où elles opèrent. Et souvent, en violation du droit des consommateurs et pour éviter de se fâcher avec le gouvernement, donc ce qui pourrait conduire à qu'elles perdent ces licences, en fait, elles évitent de se. Voilà, donc elles se conforment aux décisions, aux injonctions de ces autorités, ce qui fait que dans de telles situations, les consommateurs sont donc pénalisés. Et donc, ces compagnies de téléphonie aussi ont la possibilité, dans de telles situations, de faire appel devant les tribunaux, mais dans la pratique, elles ne le font presque jamais, en fait.
Oui. Vous parliez, Kemal Afanyon, de violation du droit des consommateurs. Amnesty International, sa directrice régionale, disait il y a quelques jours que ces restrictions au droit à la liberté d'expression et à l'information ne sauraient être justifiées pour des impératifs de sécurité. Et il se trouve que le ministre sénégalais de l'Intérieur a justifié cette décision pour faire cesser, je le cite, la diffusion de messages haineux et subversifs. Kemal Afanyon, lorsque la situation sécuritaire l'exige, est-ce qu'il ne faut pas peut-être restreindre pour éviter la diffusion, et je reprends les propos du ministre sénégalais, de messages haineux et subversifs?
C'est vrai qu'en général, quand la situation tend à se compliquer, il faudrait restreindre. Il faut dire que les coupures Internet ont commencé à attirer l'attention lors des soulèvements en Égypte de 2011, pendant lesquels les autorités égyptiennes ont coupé Internet durant peu d'une semaine. Et aujourd'hui, la tendance à laquelle on assiste, c'est que ces coupures en fait connaissent une hausse sur le continent africain. Ceci dit, quand on prend le cas du Sénégal par exemple, c'est vrai qu'il y a peut-être l'argument des fausses informations, mais le contexte actuel est marqué par la possibilité ou non du président actuel de se présenter à un troisième mandat. Et c'est un peu cette situation qui cristallise les opinions sur les réseaux sociaux et qui conduit aujourd'hui à la situation de coupure ou de censure auquel on assiste au Sénégal.
Je précise en tout cas que depuis hier soir, l'accès à Internet mobile a été rétabli et l'accès aux réseaux sociaux reste en revanche restreint. Merci infiniment Kemal Afanyon d'avoir été avec nous, responsable du bureau de l'Afrique de l'Ouest de l'ONG Internet sans frontières. Un grand merci à Ozana qui nous écoute fidèlement à Béboto, au sud du Tchad. Béboto, c'est près de la frontière centrafricaine. Il est 10h45 ici à Paris. On va parler ce matin de la crise des logements sociaux. Votre pays est probablement concerné par l'accélération de l'urbanisation, des villes surpeuplées où se loger est devenu un véritable casse-tête, surtout lorsque les loyers ne cessent d'augmenter. Les familles sont donc dans l'obligation de s'installer dans des quartiers informels et c'est le cas notamment en Côte d'Ivoire, Abidjan, la capitale économique, la plus grande ville du pays. est confrontée à une pénurie de logements. Et on parle là des logements sociaux, ceux qui sont destinés aux ménages à revenus faibles et intermédiaires. En 2017, il en manquait déjà 600 000. Et on estime que chaque année, le déficit s'accroît de 40 000 à 50 000 logements. Il y a donc urgence pour la Côte d'Ivoire. Du coup, le gouvernement a signé cette semaine un accord avec la Banque mondiale pour essayer de mobiliser des investisseurs privés et publics en vue de construire des logements de qualité, dit-on, des immeubles sociaux. L'ambition du gouvernement, c'est de construire 150 000 logements d'ici à 2025. Alors, cette crise du logement, on va en parler ce matin. Vous êtes certainement confrontés, votre ville, il manque probablement des logements sociaux là où vous habitez. Quelles en sont les conséquences dans votre vie quotidienne? Quelles mesures faut-il prendre pour faciliter l'accès au logement? 33 9 693 693 70. C'est un sujet concernant et les appels nous arrivent d'un peu partout. On va commencer avec Friedrich à Cotonou, au Bénin. Bonjour Friedrich.
Bonjour.
Vous disiez au Standard qu'il n'y avait quasiment pas de logements sociaux dans votre pays.
En effet, il y a pas quasiment de logements sociaux au Bénin. Récemment, il y a une construction nouvelle à Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, une ville qui est à côté de Cotonou. Il y a la construction de plusieurs logements sociaux, en tout cas 5 000 selon les informations que nous avons reçues.
Oui.
Mais le problème est le coût annoncé de location de ces logements.
C'est-à-dire
oui. C'est-à-dire, nous, étant donné que c'est des logements pour les populations à faible revenu ou, comme vous le disiez, à revenu intermédiaire, nous apprenons de sources proches de l'administration et en charge de la construction de ces logements sociaux,
oui,
que le coût mensuel reviendrait à 80 000.
80 000 francs CFA.
80 000 francs CFA, exactement.
Ça représente à peu près 120 euros par mois.
Exactement, par mois. Alors que quand on connaît la précarité de l'emploi au Bénin, difficilement le Béninois arrive à manger deux fois par jour, 80 000, ce n'est pas vraiment, vraiment ce que préférerait un Béninois qui, aurait voulu intégrer ces logements sociaux.
Et vous-même, Friedrich, aujourd'hui, est-ce que vous êtes obligé de vous serrer la ceinture pour payer votre loyer à Cotonou?
Je suis très obligé de serrer la ceinture. Et quand bien même j'ai envie d'intégrer ou de changer de logement, je n'ai pas la capacité puisque de plus en plus les propriétaires, les bailleurs aujourd'hui augmentent à leur guise les montants des garanties que nous devons payer, alors que la loi a déterminé clairement le montant de la garantie à payer, qui est de 3 mois. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculations qui se font, et ce qui n'aide pas réellement nous qui voulons peut-être changer ou louer un local avec les moyens à bord.
Donc il faudrait peut-être encadrer les loyers en attendant que des logements sociaux soient construits et que ces logements sociaux effectivement soient ensuite destinés aux ménages à revenus faibles et intermédiaires. En tout cas que le loyer corresponde au niveau de vie de ces ménages. Merci Friedrich de nous avoir contacté. Bonne journée à Cotonou. J'ai sous les yeux le commentaire d'Adama. Il est à Abidjan. Il nous dit que la mesure prise dans son pays n'est pas suffisante. Ce qu'il faut, c'est changer la politique du logement en Côte d'Ivoire, sinon les pauvres ne pourront plus se loger. Pierre, lui aussi à Abidjan, nous dit « mais 150 000 logements, ça ne suffira pas à couvrir le déficit. Ce qu'il faut, c'est créer de nouvelles villes. Voilà comment résoudre définitivement cette crise. » Diga, vous êtes à Dakar. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Dakar, la capitale sénégalaise. J'imagine également confronté à une crise du logement.
Effectivement, c'est ça. Dakar, la capitale sénégalaise, mais Dakar, l'une des capitales les plus chères, en tout cas d'Afrique. Voilà, donc en fait, je voudrais faire un tout petit rappel par rapport aux initiatives que l'État a fait depuis 2014. Donc en janvier 2014, l'Assemblée nationale avait voté une loi portant sur la baisse des loyers à usage d'habitation. Mmh. Mais après promulgation de cette loi-là par le chef de l'État, on a vu qu'il n'y avait rien, en tout cas il n'y avait pas de suivi. Donc c'est tombé dans l'eau. Mmh. Et 9 ans après, c'est-à-dire en mars 2023, l'État a encore promulgué un nouveau décret qui tendait en tout cas à limiter la hausse des loyers d'habitation.
Mais malheureusement,
ce que nous avons constaté, il n'y a pas un suivi, en fait, il n'y a pas un suivi qui est fait derrière.
Attendez, Dika, malgré le décret présidentiel qui oblige donc les bailleurs à baisser les prix, il n'y a aucune répercussion sur le terrain. C'est-à-dire que vous, je ne sais pas, vous êtes locataire ou propriétaire, Dika?
Il n'y en a aucune. En fait, moi, je suis locataire.
Vous êtes locataire. Est-ce que votre loyer a baissé?
Du tout. Mon loyer n'a pas baissé parce qu'il n'y a pas de suivi qui est fait derrière. Au contraire, ça crée des conflits entre bailleurs et locataires. Hmm. En réalité, c'est ça. Mais vous savez, quand on a un gouvernement qui est incapable de gérer le prix des denrées de première nécessité, pour le loyer, n'en parlons pas. Hmm. Donc ici, tout est politique, au fait, malheureusement. Oui. Ils passent tout leur temps à faire des meetings, à comploter, à vouloir éliminer des candidats, etc.
Bon, mais je comprends que vous ayez envie d'élargir le débat à la situation politique dans votre pays. Là, on parle vraiment de l'encadrement des loyers, on parle des logements sociaux. Je connais Dakar, mais est-ce qu'il y a des endroits où il y a vraiment des logements sociaux à Dakar, dans la capitale?
Au fait, il nous parle de 100 000 logements. Mais malheureusement, quand on a une population... Au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dakar est la plus petite région en termes de surface au Sénégal. Par contre, Dakar est la région la plus peuplée. Toutes les activités politiques, économiques sont concentrées dans la région de Dakar. Alors, quand on a une politique comme ça, quelles que soient les solutions... Quel que soit en tout cas le nombre de logements sociaux que vous pouvez construire, le problème reste entier.
Oui, ce sera quoi qu'il en soit, ce sera insuffisant car il y a chaque semaine des jeunes qui arrivent à Dakar pour essayer de trouver un travail, de vivre sur place, de gagner simplement leur vie. Effectivement, la démographie est galopante dans les capitales africaines. Merci Diga. Je vous interromps, je vous lis le commentaire de Jean-Baptiste, il nous dit à Kinshasa, donc en RDC, nous sommes confrontés à une pénurie de logements. Malheureusement, cela n'est vraiment pas la priorité du gouvernement. Le secteur de l'immobilier est saturé, mais aucune solution n'est prise. Conséquence, nous dit Jean-Baptiste, les prix s'envolent et les loyers sont très chers. Bonjour Marcel.
Bonjour Juan.
À Yaoundé au Cameroun, vous disiez au Standard, j'aimerais bénéficier d'un logement social.
Oui, bien évidemment. Il faut déjà dire que le logement social est construit pour des personnes à revenus intermédiaires et à faible revenu. Mais malheureusement, il faut dire que toutes les conditions qui sont mises sur pied pour qu'on ait accès à ces logements sociaux sont au-delà de ce que le citoyen lambda peut offrir. On va vous demander, par exemple, pour ces logements sociaux, dirigés par la Société immobilière du Cameroun, hein, avec pour le ministère de l'Habitat et du Développement urbain.
On vous demande combien?
On vous demande autour de 17 millions.
Hein, de 17 millions. De 17 millions, mais attendez, pour acheter ou pour louer?
Pour acheter.
D'accord.
Voilà. Et il y a une décision de la dernière fois, il y a 2 ans, on estimait que c'était suffisamment au-delà des coûts et qu'il fallait prévoir des logements sociaux à 7,5 millions de francs CFA. Mmh. Mais si vous dire s'il faut arriver dans des immeubles où vous avez, si vous êtes fonctionnaire, le coût que vous déboursez est 2 fois ce que un particulier peut débourser. Vous convenez avec moi, si le SMIC est en deçà de 50 000, dites-vous bien que le particulier ne peut pas débourser cela, toutes les garanties qu'on vous demande. On vous demande 3 bulletins de solde, on vous demande un acte de mariage, on vous demande un reçu de paiement des frais de dossier, une photocopie de la carte nationale d'identité,
Bon, oui. En même temps, excusez-moi, quand on vous demande tous ces documents, ça ne me semble pas totalement saugrenu que vous demandez une photocopie de votre carte d'identité, etc., etc. Marcel, ça veut dire quoi, pour résumer, que finalement, ces logements sociaux, ils sont occupés par des ménages qui ont un bon revenu, finalement?
Oui, nécessairement.
Parce qu'il faut avoir les moyens. À entendre les sommes que vous annoncez, il faut quand même avoir les moyens pour se loger dans ces immeubles.
Il faut avoir des moyens, Juan. C'est la chasse gardée désormais d'une infime catégorie de Camerounais. D'une infime partie de Camerounais. Que ce soit à Yaoundé, vous avez des logements sociaux, bien évidemment. Vous en avez à Yaoundé, vous en avez dans les quartiers comme Messa, Cité Verte, Olindé, j'en passe.
Alors Marcel, ne raccrochez pas. On accueille Blaise, on nous dit que Blaise, lui, ne croit pas du tout au programme annoncé par le gouvernement ivoirien. Il est à Abidjan. Bonjour Blaise.
Bonjour Juan.
Et vous-même, vous avez un témoignage puisque vous disiez que vous vous êtes inscrit à un programme pour essayer d'obtenir un logement social. C'était il y a quelques années.
Et exactement, en 2013, nos autorités nous ont demandé de faire des inscriptions pour avoir des logements sociaux. Nous avons payé 61 500 francs pour les frais des dossiers. Puis, un an plus tard, en tout cas, moi, je parle de mon cas, j'ai été convoqué et on m'a dit que, votre demande a été acceptée, mais la condition, vous devez donner tout de suite 2 400 000 francs. Et puis, vous attendez 4 ans pour avoir votre logement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tant que fonctionnaire, je dois m'adresser à la banque pour avoir les 2 400 000. Quand j'ai les 2 400 000 francs, je paye, puis j'attends 4 ans. Pendant les 4 ans, je vis dans une maison qui coûte 120 000. Et la banque ne m'attendra pas pour commencer à retirer son argent.
Et là, Blaise, c'était pour devenir propriétaire de la maison sociale.
Oui, mais les logements sociaux, c'est pour devenir propriétaire.
D'accord. Donc, après, ça dépend des pays, ça dépend du programme social. Donc là, c'était pour devenir propriétaire de cette maison sociale. Et comment ça s'est terminé pour vous, Blaise?
Non, excusez-moi, mais les 2 400 000 francs, attention, ce n'est que le dixième de l'argent qu'il faut payer pour avoir la maison. Hein. Oui. Ça ne veut pas dire que quand vous avez payé les 2 400 000 francs, vous avez une maison. Non, vous payez 10% et à partir de là, vous entrez dans la maison maintenant, vous payez mensuellement ce qu'il faut. Pendant les 4 ans que j'attendrai, je dois rembourser la banque et en même temps, je dois continuer de payer ma maison qui fait 120 000 francs. Pour un fonctionnaire moyen, ce n'est pas possible. Donc moi, j'ai simplement conclu que c'était une arnaque et je ne crois pas du tout en cela. D'ailleurs, on nous a dit 100 000 maisons sociales.
Oui. 150 000 logements sociaux, en tout cas, c'est ce qui a été annoncé cette semaine par le gouvernement ivoirien, par le ministre ivoirien du logement, lors de la signature de cet accord conclu avec un organisme de la Banque mondiale. Je vous lis le commentaire d'Achille. Il affirme que le problème, ce n'est pas tant la volonté, mais c'est l'attribution des marchés de construction. Beaucoup d'entreprises sont cooptées. Elles n'en ont pas les compétences, mais elles ont des amitiés solides. C'est Achille qui nous écrit d'Abidjan. Koulibaly Sanga à Boaké, il affirme que les logements sociaux en Côte d'Ivoire sont l'affaire de quelques privilégiés. Ces logements reviennent à tout le monde, sauf à ceux qui en ont le plus besoin. Namori, dans le quartier d'Abobo, à Abidjan, 150 000 logements, mais c'est clairement insuffisant, nous dit cet auditeur avec plusieurs points d'exclamation. Et puis on a des commentaires, évidemment, qui nous arrivent d'autres capitales. Il y a par exemple Hilaire à Libreville, il nous dit que les logements sont très chers. Pour une chambre avec le minimum, il faut sortir entre 80 000 et 100 000 francs tous les mois. Et puis Ousmane, qui est à Conakry, qui a l'impression, lui, que depuis que les autorités de la transition sont aux affaires, ce dossier est pris à bras-le-corps par les autorités. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité et de votre intérêt. On sera de retour demain et vous commenterez demain cette petite phrase du patron des casques bleus. Le retrait de la MONUSCO de RDC n'est pas un tabou.
Atlantique Mobile, la meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Elle prend le relais, comme tous les matins. Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
Vous nous parlez des muscles dans Priorité Santé.
Oui, à l'occasion de la première semaine du muscle organisée cette semaine donc en France, on va parler non seulement des troubles, des maladies en lien avec cette partie de notre anatomie qui représente quand même près de 40% de notre poids, oui. Mais aussi, on va essayer de comprendre comment ces muscles fonctionnent. Il y a trois différents types de muscles, on vous dira lesquels. Et des spécialistes, bien sûr, seront là pour expliquer comment ça marche et parler des avancées de la recherche.
Juste après le journal. Yeah.